Pour nous, c'est parti, le 18-22, France Inter est ouvert. On n'a jamais été aussi près de Noël, dites-moi. Et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce qu'il faut retenir de cette journée du lundi 20 décembre avec le journal d'Adrien Toffolet. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, ce sont des feux verts sanitaires.
Vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid, c'est ok, dit la haute autorité de santé. Priorisons les plus âgés de cette tranche, susceptibles d'être déjà au collège. Pas d'obligation, recommandent les experts, ni de passe vaccinal. Dernière validation attendue mercredi, les détails dans un instant. Dans le même temps, l'Agence européenne du médicament autorise le vaccin américain Novavax à être utilisé. C'est le cinquième dans l'Union européenne. Dans ce journal également, pas de consensus autour de l'extension du pass sanitaire au monde de l'entreprise. Rien n'est acté, dit la ministre du Travail Elisabeth Borne à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux tout à l'heure. Les Philippines dévastées par le typhon Rai, 375 morts, des survivants qui manquent de ressources et critiquent le pouvoir. Une nouvelle négociatrice du Brexit au Royaume-Uni, Liz Truss, qui ne manque pas de mordant, vous l'entendrez. Trop de forfaits de ski gratuits distribués à Courchevel et Méribel, selon le fisc. Et puis un sourire dans la défaite avec une demande en mariage au stade Vélodrome hier.
À 18h15, un jour dans le monde au Chili, ce soir, qui a célébré la victoire de son candidat de gauche et qui s'avance vers une toute autre gouvernance du pays. On verra ce qui attend le jeune Gabriel Boric et en quoi aussi certains de ses voisins se sentent pousser des ailes. À 19h20, le téléphone sonne, soupir, parce que nous pensions tous passer un Noël tranquille, eh ben c'est raté. Alors est-ce que je me teste quand même avant le réveillon? Parce que nous avons, nous, en France, choisi une autre méthode, la méthode de la contrainte. Vacciné, tu vas partout. Non vacciné, tu vas nulle part. Une méthode à la française qui envoie vers la vaccination sans ménagement. Vous nous direz ce que vous en pensez, comment vous allez aussi au 01 45 24 7000.
France Inter.
Une nouvelle barrière se lève devant la vaccination des enfants.
Feu vert, attendu, sans véritable surprise, de la Haute Autorité de Santé, rendu cet après-midi. Avis favorable donc à la vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19, avec une dose de vaccin Pfizer adaptée aux enfants, priorité aux collégiens de moins de 12 ans, précisent les experts. Bonsoir Véronique Julien.
Bonsoir.
Avec cet avis, la Haute Autorité vient confirmer les bénéfices de la vaccination pour cette tranche d'âge.
Oui, et le bénéfice, il est triple. D'abord, bénéfice direct. On sait que les formes sévères sont très rares chez les enfants, rares mais pas nulles, et avec le variant Omicron qui sera bientôt majoritaire et qui est beaucoup plus contagieux que le Delta, ce risque va être majoré dans les semaines à venir. C'est donc une première bonne raison de les vacciner. Deuxième bénéfice, avec moins d'enfants malades. Il y aura moins de classes fermées et donc moins de retard scolaire, moins d'isolement. C'est bon pour la santé mentale des enfants et leur apprentissage. Enfin, troisième bénéfice, ce qu'on appelle le bénéfice collectif, en réduisant la circulation virale chez les enfants. On freine la propagation de l'épidémie, les modélisations de l'Institut Pasteur le montrent. Cette vaccination des enfants qui arrive tard n'aura pas forcément d'impact sur la cinquième vague, mais elle en aura sur les suivantes, sur la sixième notamment avec Omicron.
Alors Véronique, la HAS préconise une injection sur la base du volontariat, pas de passe sanitaire on le disait, reste toutefois à convaincre les parents.
Oui, des parents majoritairement hostiles, mais la HAS relève qu'il y a en fait trois sortes de parents, ceux qui ne voudront jamais faire vacciner leurs enfants, ceux qui vont le faire et ne sont plus à convaincre. Et puis les indécis, ce sont les plus nombreux. Ceux-là, on peut emporter leur adhésion, ça suppose de leur parler, de faire de la pédagogie, d'expliquer les enjeux, de souligner aussi que les données scientifiques sont rassurantes. Les données américaines, qui portent sur 7 millions d'enfants, dont 2 millions vaccinés à deux doses, montrent en effet très peu d'effets indésirables. 8 cas de myocardite seulement, sur plus de 10 millions d'injections. D'après la HAS d'ailleurs, le risque de myocardite est 37 fois plus élevé pendant un Covid qu'après une dose de vaccin.
Véronique Julia, spécialiste santé de France Inter. Ajoutons que la HAS demande qu'un test sérologique soit réalisé avant l'injection afin de bien adapter la dose. Et puis, encore une dernière étape de validation à venir tout de même. Avant une ouverture effective de cette vaccination, ce sera mercredi. La décision du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale. La France pourrait ainsi rejoindre d'autres pays européens comme la Belgique qui vient d'autoriser aujourd'hui, elle aussi, cette vaccination des 5 à 11 ans. L'autre décision du jour, c'est celle de l'Agence européenne des médicaments qui dit oui au vaccin américain Novavax pour intégrer l'arsenal de solutions contre le Covid. C'est le cinquième vaccin dont l'utilisation est autorisée dans l'Union européenne pour les publics majeurs. Tout ça sera retrouvé tout à l'heure sur franceinter.fr. FR.
Et en attendant les autorisations, le gouvernement présente de nouvelles recommandations pour les EHPAD.
Oui, à l'approche des fêtes et avec le spectre du variant Omicron, il faut protéger mais sans isoler. C'est le mot d'ordre de la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Visite avec passe sanitaire, animation dans les établissements possibles, mesures proportionnées et temporaires en cas de cluster. Les directeurs d'établissements sont invités à éviter les excès de zèle. Brigitte Bourguignon était l'invitée de Bruno Duvic dans le journal de 13h. C'est à réécouter sur franceinter.fr. Pour ce qui est des entreprises, en revanche, les choses sont beaucoup moins claires. Faut-il un pass sanitaire ou non dans les entreprises ? Lieu de brassage de population malgré le développement du télétravail. Une réunion d'échange avec les partenaires sociaux ce matin a eu lieu au ministère du Travail. Et ce qu'il en ressort, ce sont des oppositions, Delphine Simon.
Du côté des syndicats, on se dit opposé à des sanctions financières comme la suspension du contrat de travail et donc du salaire. Mais il sera toujours possible de présenter un test au lieu d'un certificat vaccinal, selon le ministère du Travail. Des tests dont la validité sera de 48 heures, explique un peu sceptique Michel Boga, chez Force Ouvrière.
Ceux qui ne souhaitaient pas se faire vacciner pouvaient donc aller se faire tester. Et ces tests seraient valables 48 heures. Le progrès, c'est que pour les salariés, en fait, il serait gratuit.
Du côté du patronat, on se pliera à cette nouvelle obligation, car la priorité des priorités, c'est d'éviter de fermer, affirme l'UDP. Mais ça pose des problèmes très concrets. Comment, par exemple, contrôler les intérimaires ou les salariés nomades, s'interroge François Asselin, le président de la CPME.
C'est l'exemple du bâtiment où vous allez sur votre chantier. Et parfois, vous êtes en déplacement toute la semaine, du secteur de la propreté, ou encore le service à la personne, ou les commerciaux. Nous sommes soumis au secret médical. Difficile de leur enjoindre de nous envoyer par mail ou par SMS leur passe sanitaire.
Selon le ministère du Travail, la mesure aura force de loi, mais à ce stade, rien n'est acté. Les consultations continuent, dit-on, avec Matignon et les syndicats de fonctionnaires qui seront reçus demain.
Delphine Simon, la peur d'Omicron a en tout cas eu raison du Forum économique mondial Davos, prévu du 17 au 21 janvier prochain, et finalement reporté. Pas de forum virtuel comme en début de cette année. Monde politique et économique se retrouveront au début de l'été, disent les organisateurs.
Direction les Philippines, dévastées par le typhon Rai.
375 morts, 56 disparus, plus de 500 blessés, 400 000 déplacés selon les derniers chiffres communiqués tout à l'heure par les autorités. L'archipel est habitué à ces phénomènes de tempêtes tropicales ou typhons, une vingtaine chaque année. Mais cette fois-ci, les vents, jeudi dernier, ont dévasté le centre et le sud des Philippines. Les survivants manquent dramatiquement d'eau et de nourriture et mettent en cause l'action du gouvernement à 5 mois de la prochaine élection présidentielle. Louise Baudet.
Des toits arrachés, des arbres déracinés, des villages inondés et des habitants à gare transportant le peu qui leur reste. Les images reliées sur les écrans du monde entier rappellent celles de 2013 et du super typhon Haiyan, le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays. 7300 morts ou disparus à l'époque. Alors on n'en est pas là cette fois, mais Rai a surpris car la saison des cyclones s'étend généralement de juillet à octobre.
Nous lançons un appel pour que l'aide, même minime, nous parvienne. Personne n'a pu y échapper. Tout le monde a été touché. Alors si vous pouvez nous aider, si vous pouvez comprendre notre situation, j'espère que vous ferez attention à nous.
Près de 20 000 militaires et pompiers sont mobilisés, mais à 5 mois des élections présidentielles et sénatoriales, le gouvernement est directement mis en cause.
Nous avons payé beaucoup d'impôts en travaillant et maintenant ils ne peuvent pas nous aider ? Ils auraient dû nous donner au moins un camion de pompiers pour l'eau, mais il n'y en a pas. Ils sont où les politiciens et les candidats aux élections ? Quand ils viendront ici, ils verront bien ce que les gens diront d'eux.
Le président Rodrigo Duterte a promis un fonds d'aide de 2 milliards de pesos, 35 millions d'euros, mais il reconnaît que c'est insuffisant. Nous avons de l'argent, dit-il, mais les moyens sont limités car nous avons mis toutes nos ressources dans le combat contre le Covid.
Louise Baudet, en Égypte, la figure centrale de la révolte de 2011, condamnée à 5 ans de prison aujourd'hui, Ala Abdel Fattah a été reconnu coupable par un tribunal exceptionnel pour diffusion de fausses informations. Pas d'appel possible pour le militant politique et informaticien dont les textes ont été publiés en octobre dernier sous le titre « Vous n'avez pas encore été vaincu ». Son ancien avocat a aussi été condamné à 4 ans de prison. Ils sont considérés depuis l'année dernière comme terroristes par le régime d'Abdel Fattah al-Sissi. Au Royaume-Uni, Royaume-Uni un nouveau visage pour négocier et renégocier encore avec les Européens l'accord sur le Brexit, en particulier sur la pêche. Et l'Irlande du Nord, c'est Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, qui reprend ce rôle après la démission de David Frost sur fond de crise politique majeure avec le Premier ministre Boris Johnson. C'est donc elle la nouvelle interlocutrice britannique pour les négociations outre-Manche, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe. Son portrait avec Richard Place à Londres.
La différence entre Liz et un Rottweiler, une fois qu'ils ont mordu, c'est que le Rottweiler finira par lâcher prise. Et c'est l'un de ses amis qui le dit. Pragmatique, elle avait fait campagne contre le Brexit, mais elle le défend désormais. Cette admiratrice de Margaret Thatcher épouse complètement la ligne historique des conservateurs. C'est une libérale qui veut le moins d'entraves possibles aux libertés des individus et des entreprises. Si le Premier ministre l'a choisie, c'est aussi pour la faire grimper encore un peu plus et génère ainsi l'ascension de son ministre de l'économie, Rishi Sunak, qui pourrait finir par lui faire de l'ombre. Car Liz Truss a du caractère et de l'ambition, au point que son nom revient régulièrement quand on évoque l'après-Bojo. Il y a 4 jours, elle a posté sur son Instagram un portrait d'elle tellement cérémonial, assise dans un fauteuil rouge devant une cheminée avec un drapeau britannique, que certains se sont demandé si elle ne visait pas carrément la succession de la reine. Londres, Richard Place, France Inter.
Retour en France avec une prise d'otage qui a lieu en ce moment à Paris. Un homme d'une 50aine d'années qui semble souffrir de troubles psychologiques retient depuis le milieu d'après-midi 2 femmes dans une boutique du 12e arrondissement. Il les menace avec une arme blanche, exige de parler avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. À ce stade, la piste terroriste est écartée. La brigade d'intervention est sur place. La société gestionnaire des domaines skiables de Courchevel et Méribel, dans le viseur du fisc, la société des Trois Vallée, c'est son nom, se voit reprocher d'avoir distribué trop de forfaits gratuits ou à prix d'amis. Une générosité à destination des résidents, mais aussi des professionnels ou de personnalités. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
La pratique est contestée par les services de l'État. C'est assimilé à une renonciation à recettes, et pourtant c'est chose tout à fait courante dans les stations.
Oui, alors ce qu'il faut dire tout d'abord, ce ne sont pas des privilèges accordés à quelques people, et Dieu sait qu'ils sont nombreux à Courchevel. En fait, ce que l'on reproche à la société des Trois Vallées, qui est une société d'économie mixte propriété de l'Assemblée départementale de Savoie, et qui gère donc les remontées mécaniques de Courchevel, c'est d'avoir fait bénéficier des familles vivant à l'année dans la station, mais aussi des commerçants ou des moniteurs de ski, de forfaits pour la totalité de la saison, à prix réduit, voire gratuit pour les enfants. Alors pour les élus locaux, il est normal que ceux qui vivent et travaillent ici ne paient pas le même tarif que les vacanciers, que les touristes. De plus, il faut savoir qu'il y a des contreparties à ces tarifs avantageux. Ainsi, par exemple, les moniteurs de ski ont l'obligation de participer à des animations dans la station en dehors des heures de cours. Et en ce moment, eh bien, ils collaborent bénévolement à l'organisation de la Coupe du Monde de ski. Et si cette pratique est condamnée, peut conduire d'ailleurs à un maximum de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, elle est chose courante dans bien des stations de sport d'hiver. Enfin, à Courchevel, ces derniers mois, l'exploitant des remontées mécaniques a mis un peu d'ordre en supprimant de très nombreuses gratuités, comme celle accordée, devinez quoi, aux élus du Conseil Général.
Philippe Lefebvre du service économie de France Inter.
Et on termine avec une demande en mariage et une belle histoire alors.
Et oui, on a eu droit à un week-end de Coupe de France, de football, marqué par un instant pour le moins insolite. Hier, au Stade Vélodrome, un joueur du club amateur Canet Rocheville, club de National 3, a fait sa demande en mariage à l'issue du match des 32e de finale face à l'Olympique de Marseille. L'équipe venait de perdre 4-1, son équipe venait de perdre, mais ce joueur a au moins eu le plaisir d'être applaudi par tout le Stade Vélodrome. Selon vous, Fabienne, qu'a répondu celle qui se trouvait en face de lui?
Ah ben, si elle a dit non, c'est que c'est drôle.
Eh ben Fanny, le chevestrier nous raconte.
Elle a dit oui.
C'est tout sourire, vous l'entendez, et encore sur son petit nuage que José Mendes revient sur son coup de folie, comme il dit, avec un 19 décembre 2021, inoubliable pour le défenseur de Canet-Rocheville, fan de l'OM.
Après le tirage, ça m'est venu d'un coup. Pas meilleur endroit, autant que footballeur amateur, de jouer au Vélodrome, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose d'incroyable, donc je me suis dit, pour marquer le coup, autant le faire là-bas.
Et c'est donc bien soutenu par ses coéquipiers, mis dans la confidence la veille, et qui lui ont fait une aide au d'honneur pour l'occasion que José Mendes s'est avancé sur la pelouse pour faire sa demande en mariage. Lui qui n'avait pu jouer le match après un carton rouge reçu le week-end dernier.
J'avais plus peur. J'étais rassuré par mes coéquipiers. Des frissons dans tout le corps, des palpitations au cœur. C'était magnifique. Il restait le virage sud, il restait nos supporters à nous. C'était incroyable. Ça va être gravé à vie. Hein.
Le mariage est prévu pour l'été 2023. Tous ses coéquipiers seront invités à la cérémonie. En revanche, pour le public du Vélodrome, cela risque de faire un peu trop de monde, conclut-il.
Comme quoi, il y a du romantisme dans le football.
Mais c'est ça qui est formidable. Adrien, merci beaucoup.